VOA Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Soudan, les leaders de la contestation brandissent ce mercredi la menace de mouvement national de désobéissance civile après la réponse qu'ils estiment décevante du Conseil militaire au pouvoir à leur proposition sur un transfert de l'autorité aux civils. Selon Khaled Omar Youssef, un des chefs des protestataires, les sit-ins vont continuer et le mouvement va préparer une campagne de désobéissance civile. L'ALC, l'Alliance pour la Liberté et le Changement, qui pilote le mouvement de contestation, a accusé aujourd'hui le Conseil militaire de chercher à retarder le transfert du pouvoir aux civils. Et ce, après que les généraux eurent soulevé mardi la question de la charia, la loi islamique. Les militaires estiment que la charia devait rester la source de toute législation dans le pays. Or, la loi islamique n'est pas mentionnée dans les propositions de l'ALC. Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a estimé trop court ce mercredi le délai supplémentaire de 6 mois accordé vendredi dernier aux belligérants pour former un gouvernement d'union nationale censé mettre un terme à près de 6 ans de guerre civile. Les différentes parties au conflit sud-soudanais s'étaient accordées sous l'égide du bloc régional IGAD à Addis Abeba. 6 mois de plus pour la formation du gouvernement d'unité dans lequel M. Kiir resterait le président et son rival Riek Machar redeviendrait vice-président. Le délai supplémentaire doit aussi permettre de procéder au cantonnement des combattants et à leur intégration dans une armée unifiée. Un des points clés du dernier accord de paix sud-soudanais signé en septembre 2018 dans la capitale éthiopienne. Ebola en République démocratique du Congo maintenant, la mort d'un conducteur de taxi-moto après collision avec un véhicule d'une équipe de lutte contre la fièvre hémorragique a paralysé mardi les activités commerciales et sanitaires à Butembo, grande agglomération de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Les détails avec Morgane Guiriet.
Selon le docteur Chrysostome Chaco de l'hôpital Matanda à Butembo, une jeep de l'équipe de riposte contre Ebola a percuté accidentellement un motard qui a été tué sur place. Et ses camarades ont jeté des pierres sur l'hôpital lorsqu'ils ramenaient le corps à la morgue. Toutes les activités dans la ville ont été paralysées à cause de cet accident. Le médecin estime que ces incidents vont impacter négativement les activités de riposte. Il craint que les équipes de lutte contre Ebola ne deviennent la cible d'attaque des conducteurs de taxi-moto. Cela fait 3 jours consécutifs que les activités de lutte contre Ebola se déroulent au ralenti à cause de l'insécurité. D'ailleurs, un médecin camerounais de l'OMS a été abattu le 20 avril alors qu'il participait à une réunion dans un hôpital. Le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Lunga, a prévenu que chaque fois qu'il y a perturbation, il faudra s'attendre à une flambée du nombre de cas et du nombre de décès. Selon le dernier bilan, l'épidémie déclarée le 1er août dans la province du Nord Kivu et de l'Ituri a fait au total 1045 morts.
Élections en Afrique du Sud. Les Sud-Africains votent ce mercredi dans le cadre des élections législatives et régionales où l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994, est donné gagnant. Tous les sondages donnent l'ANC grand favori des scrutins de ce mercredi avec au moins 50% des suffrages, ce qui lui permettrait de conserver la majorité absolue des sièges au Parlement et de maintenir le président Cyril Ramaphosa à la tête du pays. Le point avec notre correspondante en Afrique du Sud, Patricia Huon.
Le vote se déroule depuis 7 heures ce matin. 26 millions d'électeurs sud-africains sont appelés aux urnes aujourd'hui, mais malgré des queues ici et là à Johannesburg, il ne semble pas y avoir d'affluence massive. C'est pourtant un scrutin important pour l'Afrique du Sud, d'abord parce qu'il se tient un quart de siècle après les premières élections multiraciales de 1994, et puis parce qu'il fait office de test pour l'ANC, le parti au pouvoir. L'image de l'ancien mouvement de la lutte anti-apartheid a été profondément endommagée. Les scandales de corruption, l'incapacité du gouvernement à redresser l'économie ont érodé la confiance de la population et le vote pour l'ANC élection après élection. Donné par le nouveau président Cyril Ramaphosa, le parti devrait néanmoins conserver sa majorité au Parlement. sera néanmoins intéressant de voir quelle majorité obtiendra le parti. À ce sujet, les sondages divergent. Certains le placent à un plus de 50%, d'autres à plus de 60%. Or, de cette majorité dépendra en grande partie la marge de manœuvre de Cyril Ramaphosa. Patricia Lyon, Johannesburg, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, en Guinée-Bissau, deuxième jour de la grève de 3 jours menée par les fonctionnaires et les enseignants pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire. Les précisions d'Abdourahmane Dia.
Le palais du gouvernement, qui abrite une douzaine de ministères, est resté ouvert, mais le bureau était vide mardi en l'absence des fonctionnaires. Les écoles sont restées fermées. Les grèves dans l'enseignement ont été quasiment ininterrompues depuis la rentrée de septembre, à l'exception d'une timide reprise en mars-avril. Avec cette nouvelle grève, il n'y aura plus moyen d'éviter une année blanche, a confié le président de l'Association nationale des parents d'élèves, Papalan Dim. Le mot d'ordre de grève a été lancé par l'Union nationale des travailleurs et l'intersyndicale, qui regroupe une centaine de petites organisations. Comment imaginer que les agents de l'État travaillent 30 jours pour ne pas être payés à la fin du mois, se demande le président de l'UNTG, Julio Mendoza, en dénonçant le respect d'accords antérieurs par le gouvernement. Cette grève intervient alors que les nouveaux députés ne parviennent toujours pas à s'entendre pour élire un bureau de l'Assemblée nationale, condition préalable à la composition du gouvernement.
Actualité hors d'Afrique, maintenant, conflit en Syrie, plus de 150 000 personnes ont fui en une semaine des secteurs tenus par des djihadistes dans la province d'Idleb et de Hama, dans le nord-ouest du pays. Les forces du président Bachar al-Assad et de son allié russe ont intensifié leurs frappes dans ces régions. Plus de détails avec Irénée Herman Umbo.
Hier, 13 civils ont été tués dans des raids aériens du régime ou de son allié russe contre des villages de la province d'Idleb ou celle voisine de Hama. Dominée par Trayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, la province d'Idleb est le dernier bastion djihadiste à échapper au pouvoir après plus de 8 ans de conflit. La moitié de ces quelques 3 millions d'habitants sont des déplacés. En une semaine, plus de 152 000 femmes, enfants et hommes ont été déplacés, selon David Swatson du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon OCHA, ces raids ont mis hors service 12 hôpitaux et 10 écoles depuis fin avril. Le président français Emmanuel Macron a exprimé son extrême préoccupation et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a réclamé une désescalade urgente. La Syrie est déchirée depuis 2011 par une guerre qui a fait plus de 370 000 morts et laissé des régions entières en ruine.
Dossier du nucléaire iranien, Téhéran a décidé de cesser d'appliquer certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire de 2015. C'est ce qu'a indiqué le ministère iranien des Affaires étrangères dans un communiqué ce mercredi. La décision iranienne intervient dans un climat de tension exacerbé avec les États-Unis. Le Pentagone a annoncé dépêcher plusieurs bombardiers B-52 dans la région du Golfe arabo-persique et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait mardi une visite surprise à Bagdad en Irak, affirmant disposer d'informations indiquant une escalade des activités de l'Iran. Monsieur Pompeo a accusé Téhéran de préparer des attaques imminentes contre les forces américaines dans la région. Et toujours concernant l'actualité américaine, l'opposition démocrate intensifie la pression sur le président Donald Trump. À preuve, les parlementaires démocrates enclenchent aujourd'hui une rare procédure au Congrès. Idrissa Seloudia.
Une nouvelle étape devrait être franchie aujourd'hui dans le bras de fer entre les démocrates de la Chambre des représentants et le président républicain Donald Trump, avec l'ouverture prévue d'une rare procédure contre son ministre de la Justice, William Barr. Les parlementaires démocrates, majoritaires à la Chambre basse, vont avoir une réunion en commission pour débattre avant de voter la défiance contre Bill Barr. Il l'accuse d'avoir entravé les prérogatives d'enquête du Congrès en refusant de leur livrer dans les délais impartis la version complète du rapport d'enquête du procureur Robert Mueller sur l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016. Ils accusent aussi M. Barr de chercher à protéger le président Trump.
Pour terminer, crise au Venezuela, usant de la carotte et du bâton, le vice-président américain Mike Pence a annoncé lors d'un discours à Washington la levée des sanctions contre l'ancien chef du renseignement du Venezuela, le général Manuel Figueroa. Le vice-président a aussi lancé une mise en garde aux 25 magistrats de la Cour suprême vénézuélienne contre d'éventuelles punitions et répété que les États-Unis n'écartent aucune option pour le départ du président Nicolas Maduro du pouvoir. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.